Radio Okapi. Le journal Gisèle Cage.
Bonjour et bienvenue dans ce journal d'information sur Radio Okapi. Voici les titres qui dominent l'actualité aujourd'hui. Ituri, l'espoir rené à Banyali, Tchabi. Après des années de violence, les communautés du territoire d'Irumu recommencent à se côtoyer. Une dynamique encouragée par les autorités locales pour consolider les vivre ensemble dans une zone longtemps meurtrie par les exactions des ADF. Kinshasa, la police militaire en renfort pour fluidifier la circulation déployée sur plusieurs axes stratégiques. Les PEM interviennent pour réduire les embouteillages et faire respecter les consignes du chef de l'État sur le désordre routier. Contraception en RDC, un droit à promouvoir et à protéger à l'occasion de la journée mondiale de la contraception. Annie Kamwanya Manassé, présidente de la Société congolaise de la pratique sage-femme, revient sur les défis liés à l'accès aux services de planification familiale en République démocratique du Congo. Son entretien est à suivre en fin du journal. Restez avec nous. Premier sujet de ce journal, en Ituri, plus précisément à Banyali, Tchabi, dans le territoire d'Irumu. Le vivre ensemble reprend vie. Les signes d'une cohabitation pacifique refont surface. Les communautés longtemps divisées par les violences renouent peu à peu les dialogues et les échanges, une dynamique absente depuis plusieurs années. Les autorités locales et les notables multiplient les efforts pour consolider ces climats d'apaisement dans une entité durement éprouvée par des atrocités. Cité des ADF. Marcel Kizabia Mungu s'est rendu sur place. Voici son reportage.
Les marchés, écoles et autres activités récréatives de Tchabi et ses environs se déroulent désormais normalement. Il y a quelques années, cette cohabitation était impossible. Babandi Laou, un des notables de la chefferie de Tchabi, insiste sur cette cohésion sociale pour barrer la route à l'ennemi commun, les ADF.
Les Banyabouissa cohabitent avec les Banyali et les Banyali cohabitent ensemble avec les Banyabouissa. Pour nous, ça a un impact positif parce que si nous sommes unis, nous allons mettre l'ennemi de côté.
Pour le gouverneur des provinces de l'Ituri qui revient de la zone, la stabilité de cette région va de pair avec les vivre ensemble entre les différentes communautés. Le général Johnny Luboya.
Vous savez, cet ennemi qui vient déranger ici, c'est pas un ennemi qui vient de loin. Et donc, j'ai demandé à cette population de vivre en paix, de s'entendre, parce que s'ils sont ensemble, ils vont faire barrage à cette menace des ADF et autres là.
La MONUSCO, à travers sa chef adjointe Viviane Van Depper, qui s'est rendue sur place la semaine dernière, a réaffirmé la détermination de la mission onusienne à appuyer les efforts du gouvernement pour la stabilité de cette région. Des retours de Tchabi, Martial Kizabiamongu, Radio Okapi.
Nord Kivu, disparition inquiétante d'un agronome dans la chefferie de Buito, âgé de 33 ans, originaire de la chefferie de Buito. Il est porté disparu depuis deux jours. Jean-Baptiste Kayoula aurait été enlevé dimanche par des hommes armés dans la localité des Kirima, située sur l'axe routier Kibirizi-Nyanzale, dans le groupement Mutanda, territoire de Rutshuru. D'après des sources locales, la victime effectuait une mission de routine dans la région lorsqu'elle a été interceptée par des individus armés non identifiés qui l'auraient amenée vers une destination inconnue. Cette disparition suscite une vive inquiétude parmi les habitants de la région, notamment au sein de la famille de l'agronome. Il est important de signaler que la situation sécuritaire dans la chefferie de Buito demeure très préoccupante. La zone est sous occupation de l'AFC M23, tandis que plusieurs groupes armés Wazalendo y restent actifs. Les civils y sont régulièrement exposés à des violences, des enlèvements et à des violences répétées de droits humains depuis plusieurs mois. Dans ce journal également, à Kisangani, les habitants sont appelés à s'impliquer activement dans la lutte contre l'infiltration des forces rebelles dans leur entité. Ce lundi, le général de brigade Jean-Daniel Batambombi, premier commandant adjoint chargé de l'éducation civique et patriotique à l'état-major général des FARDC, a lancé cet appel. Il s'est adressé en particulier aux taximen moto et aux cadres territoriaux de la ville. Le point avec Jacques Mokonkole.
Ils étaient nombreux à la place des martyrs, les taximens moto venus écouter le général Jean-Daniel Batabombi Panza. Le chargé de l'éducation civique et patriotique des FRDC n'avait qu'un seul message à leur égard, à savoir transmettre l'information sécuritaire en temps réel aux autorités tant civiles, policières que militaires. Ceci afin d'empêcher l'extension de la rébellion dans cette entité. Le général les exhortait donc à la collaboration sans laquelle il serait difficile d'échapper à l'infiltration. Par ailleurs, le même message est transmis au bourgmestre, chef de quartier et d'avenue de la ville de Kisangani.
Tout en refusant ce qui se passe au niveau du Nord Kivu et du Sud Kivu, nous vous demandons également d'être vigilants et de refuser que cette question de la rébellion puisse s'étendre dans la province de la Tchopo. Je vous ai dit qu'il faut faire attention avec les réseaux sociaux. Il faut être vigilant. Vous avez des responsabilités. L'armée compte sur vous. Vous pouvez aussi compter sur votre armée.
Les taximens moto, les bourgmestres et leurs collaborateurs disent avoir compris ce message. Ils souhaitent que la collaboration soit franche entre eux et les autorités. Ils ont par ailleurs dénoncé les tracasseries militaires et policières et parfois le manque de matériel pour les administratifs en vue de mieux exercer leur travail. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Sur le plan sanitaire au Nord Kivu, la zone de santé de Kibua, située dans les territoires de Walikale, traverse une période difficile. Depuis plusieurs mois, le 20 R de santé qui la compose sont confrontés à une rupture prolongée des médicaments essentiels, compromettant gravement le fonctionnement des structures sanitaires. Face à cette situation, le médecin chef de zone Yves Tchongo lance un appel pressant aux autorités sanitaires et aux partenaires d'appui. Il plaide pour une aide urgente aux médicaments afin d'assurer la prise en charge médicale des patients. Plus de détails avec Babel Mpongo.
Les 20 aires de santé de la zone de Kibua sont en rupture d'approvisionnement en médicaments depuis qu'elles ne sont plus appuyées par leurs partenaires, dit le médecin chef de zone. Pour lui, l'ONG Première Urgence, par exemple, qui a appuyé au moins 8 aires de santé, n'accède plus à la zone depuis 2024. Une situation due, selon lui, à l'insécurité, l'inaccessibilité des routes, exacerbée par l'avènement de la rébellion de l'AFC M23 dans la zone. Du coup, la prise en charge des malades, en particulier des personnes vulnérables, pose problème. Dr Yves Tchongo lance un SOS auprès des partenaires, mais aussi auprès des autorités sanitaires pour un appui à la zone de santé de Kibua.
Aujourd'hui, beaucoup de la population est déplacée. Certains commencent à retourner, mais sont démunis de moyens pour payer les soins au niveau des centres de santé. Alors, les responsables des établissements de soins ont difficile aussi d'assurer le fonctionnement des structures en s'approvisionnant en médicaments. Alors, nous lançons un SOS auprès des partenaires pour voir comment arriver à appuyer cette zone de santé.
Docteur Yves Tchongo ajoute que plusieurs déplacés commencent à retourner dans la zone, mais ils sont démunis et manquent de moyens pour payer les soins médicaux auprès des structures sanitaires. Il signale aussi que des cas de paludisme, de gale et de diarrhée sont les plus fréquents dans ces structures sanitaires.
Lutte contre les embouteillages à Kinshasa. La police militaire vient en renfort aux agents de la circulation sur plusieurs artères de la ville. Depuis lundi matin, les PEM sont déployés à des points stratégiques tels que Kintambo Magasin, Sosimat et le rond-point Willeri, entre autres, pour rétablir l'ordre et atténuer les embouteillages. Cette opération fait suite aux instructions du chef de l'État données lors du Conseil des ministres du 19 septembre, qui avait également insister sur l'interdiction des stationnements anarchiques. Comment cette mesure est-elle mise en œuvre sur le terrain et quel impact observe-t-on sur la fluidité du trafic dans la ville? Un reportage signé Luc Nzao et J.R. Kabamba.
À Kintambo Magasin, la station totale longeant l'avenue Colonel Mondjiba est dégagée de tous les taxibus qui y embarquent habituellement pour les grands marchés. Il est 8 heures à notre arrivée sur ces lieux. On peut apercevoir des éléments de la police militaire en gilet orange flambant neuf avec mention PEM au dos suivi d'une numérotation. Ils sont en train de chasser tout véhicule stationnant de manière anarchique. Nous sommes ici depuis 7h30 à laisser entendre un capitaine PEM commis à cette tâche. La situation est la même au rond-point Willeri. Ceux qui créent des bandes supplémentaires sont priées d'opérer un demi-tour. Certains usagers de ces tronçons apprécient, mais déplorent la brutalité qu'ils subissent. Écoutons ces motards.
ici sur Assanef pour arrêter. Donc ils arrêtent avec des brutalités. Voilà pourquoi ils créent toujours des embouteillages. Le gouvernement trouve la solution.
Pour ces taximens, les lieux de stationnement posent problème.
Ici à Kitambo Magasin, on nous chasse, mais il n'y a pas aussi de parking aménagé pour notre stationnement. On doit juste nous aligner en ordre au lieu de nous chasser.
Signalons par ailleurs que la création des parkings modernes dans la ville figure parmi les instructions données par les chefs de l'État.
Également dans ce journal, à Nitori, les taxis motos s'imposent comme le principal moyen de transport aussi bien dans les centres urbains que dans les zones rurales enclavées. Pour de nombreux jeunes, cette activité représente une véritable source de survie, leur permettent de subvenir aux besoins de leur famille malgré des conditions de travail difficiles et des risques multiples. Jean-Claude Lokidile est allé à la rencontre de ses conducteurs. Reportage.
Le taxi moto s'est imposé comme le moyen de transport le plus populaire dans la ville du Bounia. De milliers de jeunes tentent de s'en sortir. Piero Langalanga conduit sa moto-taxi depuis près de 20 ans.
Moi, j'ai choisi ce métier. Ça m'aide pour nourrir mes affaires, juste pour payer la collation. On gagne, mais pas tellement. Hein.
Pour les habitants, leur rôle est devenu incontournable.
Dans des endroits, par exemple, inaccessibles, là où le véhicule ne peut pas arriver, on voit toujours le motard transporter les cadavres jusqu'au niveau de la morgue ou soit au lieu de la famille.
Mais l'activité reste risquée. Bati Mugavu, motard depuis 6 ans, évoque les dangers quotidiens.
Avant, c'était facile de parcourir presque partout où vous voulez, mais cette fois-ci, c'est trop grave vu les sécurités.
Face à ce constat, certains appellent à mieux encadrer le secteur. Bati Manganga, conseiller communal à Bounia.
Quand il y a des jeunes gens, au lieu d'aller voler, au lieu d'entrer dans les groupes armés, c'est de même pour voir comment aider sa famille. Moi, je pense que l'État à l'obligation d'accompagner la jeunesse.
En attendant, les taxis motos continuent de circuler chaque jour, transportant élèves, commerçants et malades. Un métier vital pour l'Ituri, mais encore marqué par la précarité et la sécurité. Bounia, Jean-Claude Louki, les Radio Canada.
Dans le reste de l'actualité, la ville côtière de Mwanda en République démocratique du Congo sera bientôt reliée à Yema en Angola grâce à une nouvelle route asphaltée de 23 kilomètres. Le coup d'envoi de travaux a été donné ce lundi par la Premier ministre Judith Suminwa. Ce projet est placé sous la supervision de l'Agence congolaise de grands travaux. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Au lancement de ces travaux à la place Rond-Point Tonneau à Mwanda, la première ministre qui accompagnait quelques membres du gouvernement, dont son ministre des Infrastructures et Travaux Publics, a reçu des explications sur la consistance de ces projets de la part de l'ingénieur Nico Nzau Nzau, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux. L'entreprise Vaste Réseau des Services au Congo dispose de 2 ans pour finir les travaux de cette route numéro 11, des dépôts et des péages ainsi que d'un port sec à Yema du côté de l'Angola. Quelques heures avant, Judith Suminwa a été conduite sur les chantiers du port en eau profonde de Banana où elle a assisté au dragage du fond marin au moyen d'un bateau dragueur. Cette opération vise à ramener ces fonds à 12 mètres de profondeur avant qu'un autre navire plus grand ne vienne les repousser à 18 mètres pour l'accueil des gros bateaux dans les jours à venir. Sur la route des littorales des Banana, la chef du gouvernement et sa suite ont reçu les détails de la lutte que mène la CGT contre l'érosion côtière grâce au fonds de la Société de gestion des péages au Congo.
Au Maniema, 6 mois après leur recrutement, le nouveau magistrat récemment nommé ne perçoivent toujours pas des salaires et pourtant leur prise en charge est bien inscrite dans le budget 2025. Ces magistrats dénoncent l'absence de soutien de la part de l'État congolais. Face à cette situation, les députés provinciaux de Kindu, Abeli Choma Florent, interpellent le ministère du budget et de finances. Il exige des explications sur ses arriérés et appelle à une régularisation rapide dès l'entrée en vigueur de la loi des finances 2026. Écoutons les députés Abeli Choma au micro de Florence Kizalunga.
Comme vous le savez bien, c'est depuis l'ordonnance présidentielle du 28 mars 2025 que l'État congolais avait décidé de reconnaître plus ou moins 2340 nouveaux magistrats civils du ministère public de la République démocratique du Congo. Et cette situation n'a pas épargné la province du Maniema, qui s'est vue bénéficier d'un nombre important de magistrats qui devraient être pris en charge dans la loi des finances 2025. Mais depuis lors, ces derniers sont tellement sacrifiés par le gouvernement congolais. Ces magistrats ont été pris en charge dans le budget 2025 qui est en train de s'achever. Certains sont venus de l'intérieur et avaient déjà démissionné de leur fonction antérieure. Je pense que l'État doit assumer sa responsabilité en payant tous ces nouveaux magistrats qu'il avait intégrés, car un État qui se veut responsable et de surcroît État de droit ne doit pas faire ce dont nous assistons actuellement dans notre pays.
Dans les quartiers de Ndjili et Kimbanseke, plusieurs sites situés les longs de la route Sekomaf, notamment à Terre Jaune, Essanga, Mosengo et Salongo, dont nous sommes à Kinshasa, sont devenus des zones de maraîchage pour les cultivateurs. Cette activité est bien plus qu'un métier. Elle leur permet de nourrir leurs familles et de scolariser leurs enfants. Mais derrière ces parcelles verdoyantes se cachent des nombreuses difficultés, manque d'accès à l'eau, menace de déguerpissement. Les maraîchères tirent la sonnette d'alarme et appellent les autorités à protéger ce qui constitue leur seul moyen de subsistance. Gloriane Lepeya est allée à leur rencontre. Reportage.
Lorsqu'on se rend sur cette partie de la route Sekomaf, on est émerveillé par les étendues vertes qui s'étalent à longueur de vue. Il s'agit des plates-bandes de légumes, aubergines, gombo, choux et autres. Ces terrains sont exploités par les propriétaires eux-mêmes ou loués par de tierces personnes. Les maraîchers disent trouver dans cette activité de quoi subvenir aux besoins de leur famille. Sylvie Ndombasi.
Ces champs est notre gagne-pain. Je nourris mes enfants avec ces travaux de champs.
Toutefois, pour Émérance Nzaïlou, maraîchère, l'activité agricole est à double tranchant. Si elle permet de nourrir plusieurs, elle reste difficile à exercer sans appui. Elle plaide pour un accompagnement des autorités.
Ces travaux nous font vivre, mais nous souffrons. Nous avons besoin de soutien car nos productions nourrissent la population congolaise. L'accès à l'eau nous fait le plus défaut que les autorités. Aide les maraîchers.
Autre problème, c'est les risques de dépossession de ces terres, explique Noël Malenga.
On menace de nous déloger de ces sites pour en faire un dépotoir. Aidez-nous qu'on ne nous ravisse pas ces lieux.
Ces cultivateurs appellent les autorités à intervenir pour sécuriser cet espace vital pour eux.
Actualité internationale. Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, s'est déclaré profondément choqué par la réponse violente des forces de sécurité aux manifestations qui secouent Madagascar. Selon les premières estimations, au moins 22 personnes ont perdu la vie et plus d'une centaine ont été blessées. Parmi les victimes figurent des manifestants, des passants tués par les forces de sécurité, ainsi que des personnes prises dans les violences et les pillages généralisés perpétrés par des individus et des gangs sans lien direct avec les protestataires. Les manifestations initialement pacifiques ont débuté le 25 septembre dans la capitale Antananarivo, mais très vite, les forces de sécurité ont réagi avec une force jugée excessive. Usage de gaz lacrymogènes, coups, arrestations et dans certains cas, tirs à balles réelles selon le communiqué du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Face à la crise, le président malgache a annoncé le renvoi de son gouvernement dans une allocution de 17 minutes prononcée dans un décor solennel. Il a exprimé sa compassion envers les victimes.
L'invité.
Invité de la rédaction, Annie Kamwanya Manassé, à l'occasion de la journée mondiale de la contraception célébrée le 26 septembre, la Société congolaise de la pratique sage-femme a organisé une conférence débat à Kindu. Objectif, sensibiliser la population à l'importance de la planification familiale. Placée sous le thème « La planification familiale, un droit pour tous », cette rencontre a mis l'accent sur l'accès universel à la contraception comme levier de santé publique publique et d'autonomisation. La présidente de cette structure, Annie Kamoigné-Manassé, est notre invitée. Elle s'entretient avec Florence Kizalunga.
Madame Annie Kamoigné-Manassé, bonjour.
Bonjour Madame la journaliste.
Dans une conférence débat aujourd'hui, à l'occasion de la journée internationale de la contraception, vous avez réuni beaucoup de gens. De quoi est-ce qu'il a été question au cours de cette rencontre?
Il a été une question de parler avec différentes couches de la population de Maniema concernant la planification familiale, parce que nous avons trouvé qu'il y a un problème majeur dans la communauté sur la planification familiale. Tellement que nous, les sages-femmes, nous sommes à tout moment avec les femmes enceintes et les femmes qui allaitent. Nous avons trouvé que beaucoup de femmes vraiment n'ont pas encore maîtrisé la planification familiale. C'est pourquoi nous constatons qu'il y a beaucoup de décès maternels et beaucoup de femmes meurent parce qu'ils n'ont pas bien planifié leur naissance. Et la femme ne peut pas mourir en donnant la vie et l'enfant aussi ne peut pas mourir en venant au monde. C'est pourquoi nous avons jugé bon d'appeler les couches différentes de gens pour leur parler de la planification familiale.
Pourquoi est-il important de planifier une naissance?
C'est important de planifier une naissance parce que un couple ou bien une famille doit avoir l'enfant au moment voulu et le nombre voulu par ces couples. Parce qu'on peut avoir beaucoup d'enfants, mais on ne sait pas les encadrer. Et quand on ne sait pas les encadrer, c'est pourquoi nous voyons il y a beaucoup de kuluna, de bandits, et tout ça parce que les parents ne savent pas prendre en charge leurs responsabilités.
Combien de méthodes y a-t-il pour la planification familiale?
Il y a 4 méthodes pour la planification familiale. La première méthode est la méthode naturelle. Et là, nous trouvons comment la femme peut utiliser son calendrier. Il y a aussi les colliers du cycle, comment la femme peut utiliser son collier du cycle. Il y a aussi la mama que nous appelons la méthode d'allaitement maternel et d'aménorrhée. Et nous expliquons aux femmes comment elles peuvent allaiter l'enfant exclusivement jusqu'à 6 mois. Et c'est une méthode qui aide les femmes à ne pas concevoir pendant qu'elles sont en train d'allaiter les enfants exclusivement durant les 6 mois. Et il y a aussi méthode d'auto-observation. C'est ça la méthode qui nous aide à utiliser le thermomètre. Comment connaître la température dans son vagin et connaître qu'à la période d'ovulation, la température est toujours élevée. Deuxième méthode, c'est méthode artificielle. Et là, où nous voyons, il y a des dispositifs intra-utérins. Nous avons de Jadel, des implants NXT, des Sayana Press. Nous avons aussi de Noristera. Troisième méthode, c'est méthode de barrière. C'est là que nous trouvons des préservatifs avec des préservatifs masculins, préservatifs féminins que nous appelons aussi fémidon. Il y a aussi la méthode définitive qui est la 4e méthode. C'est là que nous avons trouvé, il y a ligature et section des trompes chez la femme et aussi chez l'homme, nous avons la vasectomie. Donc pour cette méthode ici, ça nécessite l'intervention chirurgicale.
Mais parmi la communauté, vous avez suivi vous-même, il y a ceux-là qui ont peur de choisir l'une de méthodes étant donné que selon eux, il y a des conséquences négatives.
Nous avons enlevé cet équivoque. Nous avons explicité, expliqué aux femmes comment les méthodes sont importantes et comment gérer les effets secondaires de ces méthodes, si et seulement si ça apparaît. Et nous avons expliqué aussi aux femmes que les effets secondaires de ces méthodes contraceptives, ça dépend d'un organisme à un autre. Donc, ce n'est pas un cas à généraliser. C'est pourquoi il est important que la femme ou bien les couples consultent les personnels soignants comme les sages-femmes, les gynécologues obstétriques, qui vont leur expliquer comment prendre les méthodes, montrer d'abord les méthodes dans la généralité afin d'aider la femme à bien choisir les méthodes qui lui conviennent.
Madame Annie, pourquoi est-il important dans notre pays de promouvoir la planification familiale?
Il est important, Madame la journaliste, de promouvoir la planification familiale dans notre pays parce que si chaque couple, chaque famille limitait les naissances ou bien avoir les enfants au moment voulu, je pense que ça ne sera pas une charge au gouvernement. Mais si on ne sait pas limiter les naissances, c'est une charge et pour la famille et pour les pays.
Est-ce que les méthodes contraceptives sont vendues ou bien c'est à donner gratuitement?
Il est recommandé de donner gratuitement les méthodes contraceptives. C'est pour les fins de sauver les vies de nos femmes ou bien de la communauté. Et quand on trouve un personnel soignant en train de vendre, c'est préjudiciable par la loi, Madame la journaliste.
Madame Annie Kamoigné-Manassé, je vous remercie.
Merci beaucoup, Madame la journaliste.
Vous venez de suivre la madame Annie Kamwanya Manassé, présidente de la société congolaise de la pratique sage-femme, s'exprimer donc sur les enjeux de la planification familiale et l'accès à la contraception à l'occasion de la journée mondiale de la contraception. Ce journal vous a été présenté par Gisèle Cage. La mise en onde a été assurée par Alain Goy, sous la coordination de Richard Junior Kamunga, supervision Poli Mouzalia. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Radio Okapi.